d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, c'est avec ACEA, Agir ensemble contre le chômage. Je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Voilà, donc comme vous le savez tous, c'est la rentrée bien sûr scolaire et étudiantine, mais également politique et sociale avec Macron 2, puisque nous sommes en deuxième année de macronisme. La première année n'était pas terrible, la deuxième, ne vous inquiétez pas, sera bien pire. Nous parlerons donc dans cette émission, évidemment, de la réforme de la convention UNEDIC, de l'assurance chômage, bien sûr, de la réforme des retraites, et également de tout ce qui touche...
La dette.
La dette, excusez-moi, les dettes...
En fait, la crise financière,
la crise financière à 10 ans. Voilà, merci Ludo. Les dettes illégitimes dues à l'Europe, bien sûr. Voilà. Donc cette émission commence. Merci de l'avoir suivi. Très bien Ludo, donc apparemment la réforme de l'assurance chômage est en cours avec la convention UNEDIC en ce moment, avec les partenaires sociaux. Qu'en est-il exactement? Tu as suivi un peu l'affaire de près?
C'est la 15e négociation, 20e, 50e, on ne sait plus. Réforme donc de l'UNEDIC qui consiste bien entendu à baisser les droits des chômeurs, puisqu'en fait il n'y a que ce levier. En fait c'est la contre-réforme pardon, de l'UNEDIC, puisqu'il n'y a que en fait, ce levier pour jouer sur le soi-disant déficit de l'UNEDIC. Alors effectivement, le déficit est de 37 milliards. Les comptes sont donc en rouge, mais le problème, c'est que ça fait 20 ans que les cotisations sociales n'ont pas augmenté dans ce pays, et que non seulement elles n'ont pas augmenté, mais que j'annonce une surprise que tout le monde connaît déjà, c'est qu'une partie d'entre elles seront supprimées dans les prochaines années, donc seront pérennisées les aides aux employeurs, le CICE. Oui, le fameux pacte compétitivité de François Hollande, qui représentait
40 milliards de mémoire, non,
voilà à peu c'est près. Ça, hein, ouais. C'était enfin dans cet ordre d'idée, c'est plusieurs dizaines de milliards. Monsieur Macron avait effectivement pour ambition de supprimer carrément les allocations, les cotisations chômage. Et oui, chômage et une partie des cotisations maladie pour alléger la feuille, enfin les charges des employeurs et étatiser l'UNEDIC. Ça, c'était son projet pendant la campagne. Alors, il n'est pas sûr qu'il aille au bout de son projet, tant les résistances sont vives et tant finalement, à la limite, il réduit les partenaires sociaux, enfin ce qui reste de ce qu'on appelle les partenaires sociaux à rien, en fait, c'est-à-dire, puisque c'était la convention UNEDIC qui était quand même le gros morceau dont on discutait, hein. Puisqu'il n'est pas vraiment question pour le moment de toucher à l'assurance maladie. Par contre, on peut toucher aux retraites. On en parlera plus tard.
Tout à fait, oui.
Plus tard. Alors, oui, pour mémoire, hein, pour les gens qui ne savent pas, les cotisations retraites représentent 50% des charges contre 11% pour l'UNEDIC. Vous voyez, et le reste étant pour l'assurance maladie, un quart étant pour l'assurance maladie vieillesse. Oui. Alors du coup, maladie vieillesse veut dire maladie handicap dépendance.
Toutes charges comprises, la patronale comme salariale. Hein,
voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous payez, enfin, ou votre patron paye la moitié de ce que des charges en fait pour votre retraite. D'accord. C'est du salaire différent. Alors du coup,
alors quelles sont les grandes lignes de cette convention?
Alors les grandes lignes. Alors justement, le problème, c'est que, tant qu'à faire, on va peut-être rétablir la dégressivité. Donc ça, alors évidemment pour les cadres. Hein. Oui. Alors est-ce qu'il est vraiment question de plafonner les allocations chômage des cadres? Ça, c'est une vraie question parce
c'était dans les tuyaux pourtant a priori.
Oui, c'était dans les tuyaux, mais la question c'est, qui a un pouvoir de négociation et de résistance dans ce pays, et donc qui peut empêcher effectivement? Parce qu'il y a quand même une petite différence, c'est que par exemple les droits en durée, les droits d'indemnisation en Belgique sont beaucoup plus généreux. hein, d'accès et de durée. Mais en revanche, ils sont plafonnés. Et en France, on est dans un des rares pays où les allocations des allocations chômage ont un plafonnement qui est très très haut, en fait. Et donc, qui permet, par exemple, pour prendre un exemple le plus célèbre parmi les exemples, à monsieur Gérard Depardieu d'avoir touché des indemnités chômage en tant qu'intermittent. Voilà. Bon, c'était l'exemple extrême. Et donc, du coup, effectivement, le plafonnement, c'est à supposer que le régime soit un peu plus juste. Mais enfin, si on rétablit la dégressivité, c'est quand même une façon de revenir à la précarité, en fait, des demandeurs d'emploi qui sont déjà, enfin, ils sont précaires puisqu'ils n'ont pas de boulot, hein, bien sûr. Mais voilà, à la fragiliser toute cette population. Voilà. Et donc, mais évidemment, Monsieur Macron n'agit pas tout seul, il n'a pas dit ses intentions, mais c'est pas grave, car il a des porte-voix extraordinaires. Donc j'en ai une, par exemple, qui s'appelle Madame Muriel Pénicaud, qui est donc son ministre du Travail, qui a ce genre de déclaration, une assurance chômage, donc une réforme de l'assurance chômage qui n'enferme plus les gens dans la précarité. C'est donc beau, j'ai ça. Une super nouvelle, c'est bien l'assurance chômage qui crée la précarité, et pas la précarité...
Qui crée le chômage.
Pas les emplois ou le manque d'emplois qui créent la précarité. Ou les contrats courts qui créent la précarité. Alors voilà, alors si elle entend par là qu'effectivement elle a l'intention de taxer les contrats courts, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, ça se passe au niveau employeur, c'est-à-dire qu'elle taxe l'usage des contrats courts, ce qui est en principe devrait être une négociation, devrait faire partie de la négociation. Bon, enfin, elle n'a pas dit ça, hein. Elle a dit c'est l'assurance chômage qui enferme les gens. C'est-à-dire que l'assurance chômage est une trappe à chômage, hein, grosso modo, donc c'est une vieille idée. Alors je rappelle, hein, pour mémoire, que moins d'une personne sur deux sont indemnisées, et surtout moins d'une personne sur deux sont indemnisées, si on compte ce qu'on appelle l'assurance... en fait, ce qu'on appelle la cotisation minimale, si vous voulez, quand vous avez perdu vos droits à l'assurance chômage, c'est-à-dire l'ASS, et là, l'État... vient c'est un minima social, c'est-à-dire que ça remplace l'assurance chômage et vous avez un espèce d'équivalent RMI. Donc si on enlève ça, on est nettement en dessous, on est à peu près à 40% des chômeurs indemnisés. Donc voilà, donc j'aimerais savoir si les gens, la moitié, 60% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés sont enfermés par la précarité, par leur assurance chômage. Donc ça, bon, voilà, c'est le genre de déclaration. Mais ceci dit, on a l'habitude, hein, des déclarations à l'emporte-pièce de Madame Pénicaud.
Alors moi, je voulais juste te demander un truc, c'est que le chômage structurel de masse, apparemment, serait sciemment voulu par nos dirigeants, hein, pour justement lutter contre l'inflation. Donc ça, c'était un truc qui est dans l'air, apparemment. Voilà, donc moins d'inflation, moins de chômage ou l'inverse, on sait pas trop.
Mais bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est un autre débat, mais il est sûr que de maintenir, d'avoir maintenu pendant des années des taux d'intérêt pour limiter l'inflation, très certainement, c'est-à-dire grosso modo avoir une politique ou du franc fort ou une politique de l'euro fort a contribué à l'amélioration du chômage. Cela étant dit, la crise depuis est passée par là, oui. Et effectivement les monnaies ont plongé, et puis surtout la banque centrale est censée couvrir les dettes des banques. Mais effectivement, il y a très certainement un lien à faire entre la politique de lutte contre l'inflation de la BCE et le taux de chômage. Mais pour finir, hein, sur ce système, la réforme, en fait, Macron a un deuxième porte-voix qui s'appelle Monsieur Debézieux et qui est le patron du MEDEF. Et lui, il voit les choses comme ça. Il a trouvé le programme de Monsieur Macron excellent. Et donc, il envisage, lui carrément, de mettre une assurance de base, une allocation de base unique pour tout le monde, qui serait à la charge de l'État via la CSG, et de laisser à la charge des entreprises une assurance complémentaire en fonction des entreprises, hein, qui assurerait le reste de voilà. Alors du coup, c'est adorable, mais ça veut dire qu'effectivement il faut déjà avoir travaillé un certain nombre d'années pour bénéficier de ce type d'assurance. Bon, alors vous me direz, c'est déjà le cas, mais enfin au moins ça assurerait des droits uniformes à tout le monde. Là, il y a grand parier qu'en fait, en fonction des entreprises, enfin, si on prenait vraiment le système tel qu'il fonctionne dans les pays libéraux, ça serait vraiment en fonction des entreprises et à la tête du client. Donc voilà, donc pour le moment on n'en sait pas plus, donc on attend les négociations qui sont en cours, et la seule chose c'est que on espère que cette fois le bonus malus en fonction des types de contrats, d'ailleurs des contrats courts de moins d'un mois, hein, c'est ça qui est visé, sera réellement négocié et appliqué, mais sans retour à la dégressivité.
D'accord. Alors je sais pas si tu as entendu parler des droits rechargeables, parce que apparemment j'ai devant moi un petit texte qui parle d'une allocation chômage de 9 euros par jour après avoir travaillé à temps plein au SMIG. Voilà, donc cumulant entre intérim et petit boulot. Je trouve ça vraiment 9 euros par jour, ça fait quoi? Ça fait 270 euros par mois à peu près.
Oui, c'est un effet pervers de l'ancien système, si vous voulez, qui conduit en fait à vous empêcher de recotiser à nouveau. En fait, officiellement, vous continuez à vos droits ont encore cours, mais vous ne pouvez pas attendre que vos droits soient tombés à zéro pour recotiser pleinement.
Donc,
en fait,
faut tout le temps cotiser au fur et à mesure jongler entre CDD et intérim, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Merci Claude, si tu peux nous mettre une petite chanson, s'il te plaît. C'était The Shadows. La chanson s'appelait Sleep One. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Donc maintenant nous allons parler un petit peu des retraites, Ludo.
Écoute, c'est toujours partie des réformes de Monsieur Macron prévues dans son programme, dans son cher programme. C'est son projet. D'ailleurs, on reparlera de son projet ultérieurement. Mais donc, effectivement, il était question de s'attaquer à notre régime de retraite tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de faire disparaître le régime par répartition au profit d'un régime de fonds de pension, hein, puisqu'on sait que qu'en principe, il n'est pas question non plus d'établir des fonds de pension dans le système de retraite actuel, puisque les deux ont du mal à cohabiter, selon les économistes. Alors du coup, en quoi consiste cette réforme des retraites? Donc pour le moment, il est un peu flou sur la question, notre ami Macron, et donc il ne va pas déballer tout de suite ses intentions. Il était question, pendant la campagne, de passer à une retraite par points. Donc une retraite par points, actuellement, c'est le système des cotisations complémentaires, des régimes complémentaires des cadres. Grosso modo, vous accumulez un certain nombre de points qui correspondent à des trimestres, et c'est comme un régime, hein, si vous voulez,
individualisé pour le coup.
Alors c'est parfaitement individualisé, puisque ça prend en compte en fait votre durée, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, mais votre durée de cotisation, et puisque vous accumulez des points, votre départ à la retraite. Donc ça vous voyez, c'est un système comptable. Mais il y a un truc, c'est que c'est au moment où vous partez qu'on calcule le montant de la pension, à la date du départ à la retraite, en fonction de la valeur du point. En fait, ce qui permet à l'État de baisser ou d'augmenter, de jouer sur la valeur du point, de façon à ce que ce soit parfaitement indolore. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, le système de retraite actuel est indexé sur les prix, en fait, sur l'augmentation des prix. Et donc, on parlait de la BCE tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'en fait, la lutte, c'est une des justifications majeures de la lutte contre l'inflation, c'est que la lutte contre l'inflation permet de limiter le montant des pensions que versera l'État aux retraités. Et donc, c'est le poids démographique des retraités qui fait que, en fin de compte, on lutte contre l'inflation pour qu'ils aient des pensions acceptables Et pour qu'on n'ait pas un effet mécanique à la fois d'augmentation des prix et d'augmentation des pensions, en fait, hein. Et donc de la masse monétaire. Donc du coup,
c'est un effet pervers pour le coup, parce que
c'est un effet qui est recherché en fait du fait de l'augmentation du nombre de retraités, en fait.
D'accord.
Donc c'est une politique qui est consciente. Alors ça, donc voilà, donc vous l'avez vu, hein, recalcul indolore, c'est ce que ça va permettre, hein, de la valeur du point. Alors, il y a un deuxième système qui est le compte, ce qu'on appelle le compte notionnel, qui est valable en Suède, en Allemagne et en Italie. En fait, c'est un capital virtuel composé de points. Donc, et c'est des pensions mensuelles qui sont calculées selon un coefficient donc de conversion qui prend en compte l'âge de la retraite du cotisant, son départ à la retraite, hein, et l'espérance de vie de sa génération. Et donc, c'est un système qui est en fait à peine mieux, puisque effectivement, plus il y a de monde, plus l'espérance de vie s'allonge, et plus votre retraite est basse, puisque c'est compliqué pour les pays. Voilà, alors on ne sera pas touché, a priori, hein. En l'état, on ne sait pas plus. L'âge légal de la retraite, 62 ans, enfin s'ils baissent les pensions, bon voilà. Les carrières longues, pour pénibilité, et voilà, les avantages en matière d'interruption de travail. Voilà. Mais je crois que
je vous propose d'entendre Henri Stardignac, économiste atterré, hein, d'Attac, qui est interrogé par Rachida El Zazouzi, qui est de Mediapart. Voilà, donc.
Il veut créer un vrai système universel de retraite où 1 euro versé pour cotisation ouvrirait droit au même droit, quel que soit le secteur, la catégorie, le statut. Les règles donc pour tous les mêmes régimes, donc fini les régimes spéciaux. Il y a une figure du libéralisme français, l'ancien ministre Alain Madelin, qui vient de s'extasier sur son projet en disant la réforme des retraites de Macron, elle est excellente. Est-ce que vous vous étranglez, Henri Stardignac?
On s'étrangle pas. Vous savez, c'est une vieille histoire. Ça avait déjà été proposé il y a quelques années par Monsieur Thomas Piketty et Bozio. C'est s'inspirer de ce qui s'est fait en Italie et en Suède, c'est-à-dire de passer à des comptes individuels de retraite. Chacun cotiserait, ses cotisations seraient mises dans un compte notionnel, c'est-à-dire un compte imaginaire. Et au moment où prenez votre retraite, eh bien, vous aurez droit à une retraite qui dépendra du montant des cotisations que vous avez versées et puis de votre espérance de vie. Alors l'espérance de vie, ça pose tout de suite deux problèmes. C'est que l'espérance de vie n'est pas la même suivant le sexe et suivant la profession. Et donc, naturellement, et puis d'autre part, avec ce système, pour avoir une retraite satisfaisante, on dira aux gens, il faut travailler plus longtemps. Et donc, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que généralement, ça permet pas d'avoir une retraite satisfaisante à 62 ans. Et pour avoir une retraite satisfaisante, il faudra aller jusqu'à 65, 67 ans. Or, d'une part, les gens ne sont pas dans la même situation par rapport à l'emploi à 62 ans, suivant qu'ils ont eu une carrière de travailleur manuel ou selon qu'ils ont eu une carrière de cadre. Donc c'est un système qui, bien sûr, favorise les cadres, puisqu'ils pourront plus facilement prolonger leur activité. C'est un système. Alors Monsieur Macron prétend qu'on va tenir compte effectivement de la CSP, mais dans tous les pays où ça a été envisagé, ça ne s'est pas fait, tout simplement parce qu'on ne sait pas quelle est la CSP de quelqu'un à 62 ans, on ne peut pas dire si, par exemple, il a été ouvrier, puis il est devenu contremaître, puis il est devenu petit cadre. Il est très dur de dire quelle est sa CSP, donc ça ne se fera pas. Et donc, généralement, c'est un système qui favorise les cadres. Et puis, l'avantage du système, c'est qu'il est automatique. L'avantage pour le patronat, c'est qu'il est automatique et qu'il aboutit à une baisse progressive des retraites, alors quand la durée de vie augmente. Alors que dans le système traditionnel, l'objectif était de garantir un taux de remplacement satisfaisant. Lorsqu'on a fait le système au début, l'idée c'est on a le régime général et l'ARCO qui garantissent un taux de remplacement de 70% en dessous du plafond. Les cadres, ils ont l'AGIRC qui garantit un taux de remplacement de 50% au-dessus du plafond, et pour les travailleurs du secteur public, système différent, les primes ne sont pas prises en compte, mais le taux de remplacement est de 75% sur le salaire normal, hors prime. Or, ce système-là, où il y a des garanties pour le taux de remplacement, il disparaît complètement avec le système proposé, puisque ça dépendra des cotisations de chacun, avec les disparités entre CSP et le fait que le taux de remplacement diminuera automatiquement au cours du temps. Donc c'est un projet qui traîne depuis longtemps, c'est pas nouveau, et c'est le projet de la technocratie, parce que la grande idée de la technocratie, c'est de réussir à éviter la hausse des dépenses de retraite. Nous sommes un pays où les gens vivent de plus en plus longtemps. Le grand problème, c'est comment faire baisser les retraites. Et donc, comme on n'ose pas dire directement aux gens, on baisse les taux de remplacement, on trouve ce système qui permet de petit à petit de faire baisser le niveau des retraites.
Et alors, une question que l'on se pose pour les retraites comme pour l'assurance chômage, c'est la question du financement et de la faisabilité. Est-ce que toutes ces mesures qui, pour Emmanuel Macron, sont révolutionnaires, peuvent être financées
Pour les retraites, il n'y a aucun problème, puisque l'objectif, c'est justement de baisser le niveau des retraites. Vous savez que la France a un des systèmes de retraite actuellement les plus généreux. On est un des rares pays où les retraités ont à peu près le même niveau de vie que les actifs. Pas tout à fait. Les retraités sont un peu plus pauvres que...
Oui, pas tous les retraités, parce qu'on a quand même une frange de petites retraites.
On a des petites retraites, mais en moyenne, les petites retraites souffrent. Il faudrait augmenter le minimum vieillesse, il y a le problème du minimum contributif, mais...
Là, c'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron.
C'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Actuellement, le niveau des retraites est à peu près équivalent à celui des revenus des personnes actives, compte tenu du fait que les personnes actives ont plus souvent des enfants à charge que les retraités n'ont pas. Donc, en moyenne, le niveau de vie est le même. Et les grands projets de la technocratie, c'est de faire baisser le niveau des retraites. Donc... Actuellement, le projet, c'est on va le faire baisser de 15-20%. C'est le projet que la France a présenté à Bruxelles en disant ne vous inquiétez pas pour nous, on va baisser le niveau des retraites de 20%, et donc c'est comme ça qu'on va équilibrer. Et donc, un des moyens de faire, c'est les comptes notionnels. Et l'exemple les comptes notionnels, la grande réforme des retraites, les comptes notionnels, tel que ça a été introduit en Italie, ont un très grand avantage, c'est que ça masque le problème. C'est-à-dire, on fait une grande réforme, mais on dit ça ne s'applique pas aux gens qui ont actuellement 50 ans. Donc, lorsqu'on décide la réforme, ça s'applique à personne, puisque ça ne s'applique pas aux retraités, ça ne s'applique pas aux gens qui ont plus de 50 ans. On dit ça va s'appliquer aux autres, aux jeunes. Et donc, personne ne voit le montant de la catastrophe, quoi. Et donc, c'est en fait une manière de faire baisser le niveau des retraites. Et puis, c'est une manière d'individualiser le problème, puisque vous aurez... si vous avez une retraite insuffisante, on dira, c'est de votre faute. Vous aviez qu'à travailler jusqu'à 65 ans. Vous avez travaillé jusqu'à 67 ans. Alors, quand Macron dit, je maintiens la retraite à 62 ans, c'est une escroquerie, parce que la retraite à 62 ans sera extrêmement faible et... si vous voulez une retraite satisfaisante, il faudra aller jusqu'à 67.
Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges sans être un saigne salaud. Je ne vaux pas le moindre siège. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch and jean fils, et tout le reste est arrivé.
Et oui, c'était Léo Ferré qui chantait « Ils ont voté ». Évidemment, Macron est passé, effectivement, ils ont voté. Je sais que
ils ont voté, et puis après.
Et puis après, voilà. Donc, et puis après, justement, Ludo, quelles sont maintenant les nouvelles réformes que Macron a dans les tuyaux? Par qui on va être mangé, là, pour le coup?
Je pense qu'il ne fallait pas s'attendre. Les gens qui l'ont élu, vraiment. En fait, comme l'a dit un démographe, je crois, ils l'ont élu sur parce que c'est le premier de la classe,
il présentait
beau
bien
gosse,
c'est vrai,
etc.
Ouais, c'est vrai.
là, ouais. qui incarnait un espèce de
renouveau,
de renouveau, mais aussi de fantasme, voilà, de la personne qui réussit en fait, hein, et, voilà, et qui est super compétente et qui va vous sauver de. Donc effectivement, qui va vous sauver, donc qui va commencer par baisser le nombre de fonctionnaires.
Voilà, très bien.
Dans
oui, voilà.
Issu du nombre de la fonction publique, donc c'est son programme, hein, du budget. Baisser les emplois aidés de moitié, je précise, et baisser aussi réduire encore les aides au logement.
Ah, c'est bien.
Donc ça, c'est sympa. C'est bien. Donc effectivement, après les cadeaux faits donc aux entreprises avec la pérennisation du CICE, on l'a dit, après. Les cadeaux faits aux plus grandes fortunes de France, en fait, puisqu'il a supprimé l'ISF sur les titres financiers, pas sur l'immobilier, hein, ouais. pas sur les résidences secondaires, pas, voilà, mais bien sur les titres financiers. Donc ça concerne, je sais pas,
les retraites chapeaux, de famille, les machins comme ça. Enfin, les,
non, non, enfin c'est l'ISF, tout ouais. ce qui est ISF. Non, c'est non.
Pardon.
C'est directement sur les actifs financiers. C'est-à-dire
ah oui.
qu'en fait,
ah oui,
les
actifs.
Grandes fortunes payent effectivement l'impôt sur les bénéfices en fait de leurs actions en fait. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais passé un certain degré de fortune, ils payent effectivement l'ISF et donc il est calculé, qui prend en compte la valeur du patrimoine et donc la valeur de leurs actifs financiers. Et la valeur de leurs actifs immobiliers. Donc jusqu'à, on peut considérer que ça commence à peu près un peu avant 1 million d'euros. On commence à payer des voilà. Et donc c'est vrai que l'ISF était pas toujours très équitable dans la mesure où en fait on taxait c'était les biens immobiliers qui donc comme on l'avait dit hein, vous savez un appartement à Paris un grand appartement à Paris ça peut valoir 700 000 francs vous voyez c'est 600 000 francs enfin bon ça chiffre très très vite et puis il y a certains comme l'île de Ré les retraités de l'île de Ré tout d'un coup qui avaient vu la valeur de leurs biens immobiliers augmenter parce que c'était devenu une résidence de villégiature où il y avait des résidences secondaires et tout d'un coup ils étaient au seuil de l'ISF alors qu'ils avaient que leur maison. Donc on trouvait que l'ISF n'était pas juste par rapport essentiellement au patrimoine immobilier. Eh ben c'est pas cette réforme de l'ISF sur les biens immobiliers qui a été décidée, c'est la réforme sur les actifs financiers. Donc c'est-à-dire ceux qui parce qu'en fait plus vous augmentez dans la richesse, la valeur de plus vous augmentez dans la valeur
bien,
du patrimoine en fait oui. et en fait plus c'est le au premier centile c'est les actifs financiers qui ont les plus grandes fortunes qui font la richesse donc c'est la tranche supérieure de l'ISF qui est exonérée d'impôt sur les actifs donc c'est voilà donc ce qui fait dire à monsieur Hollande que non monsieur Macron n'est pas le président des riches, c'est le président
riches.
Des très riches.
C'est ça.
oui. Voilà. Donc du coup, après tous ces cadeaux, effectivement, ça vaut bien quand même la réduction de quelques euros des allocations logement, sachant que personne n'a jamais aucun problème pour payer son loyer.
Avec quand même une condition, c'est que les propriétaires baissent de la même somme le loyer des...
Les propriétaires des bailleurs sociaux.
Les bailleurs sociaux, bien sûr.
Voilà, qui est ce que je ne suis pas certain qu'ils aient fait.
Non, absolument pas. Non.
Donc, ça, c'est le programme. Et donc, en fait, c'est que veut M. Macron. Alors, parce que ça c'est le volet social. Le volet économique, c'est qu'au passage... Donc à faire autant confier au privé un maximum de choses que le public serait bien incapable de gérer, y compris des choses très rentables. C'est-à-dire que le public n'est pas capable de gérer des choses très très rentables. Donc, par exemple, la Française des Jeux. La Française des Jeux est une industrie des plus rentables pour l'État. Et ben ça, au privé. Pourquoi ? Bah, je sais pas, réduction de dette sur le court terme, mais enfin sur le long terme, ça fait une source de revenus en moins de l'État. Les aéroports de Paris. Pareil.
Oui.
Mais on sait d'où il tire son programme. Parce qu'en fait, Monsieur Macron était le secrétaire de la commission Attali. Et donc, la commission Attali qui réunissait toutes les grandes entreprises. Enfin, voilà. Et donc, après son élection, il a fait effectuer une réunion avec les mêmes personnes de la commission Attali. Et donc, il s'agit aussi de privatiser des infrastructures et de confier donc au capitalisme privé, les bijoux de famille de l'État. Donc on a effectivement un libéral dont l'ambition est de dire aux gens débrouillez-vous, soyez autonomes. Alors évidemment, dans un pays où il y a 9 millions de chômeurs et où les débouchés vis-à-vis de l'emploi ça pose un léger problème, dire aux jeunes qui commencent, débrouillez-vous, créez votre propre entreprise. Bon, voilà, on sait où conduit ce modèle libéral aux États-Unis et en Angleterre. Et donc, en cela, Monsieur Macron obéit tout à fait à la logique des, enfin, à l'injonction européenne, en quelque sorte, des technocrates qui ne voient qu'une chose, réduire l'État, le périmètre d'action de l'État dans l'économie, et réduire donc, faire des programmes d'ajustement structurel, et donc réduire aussi le personnel de l'État, et puis laisser les gens se débrouiller.
Alors, ce qui veut dire que les entreprises qui vont acquérir ces bijoux de famille vont pouvoir licencier à volo pour pouvoir éventuellement monter les primes actionnaires, alors, pour le coup.
Ben, c'est surtout, par exemple, pour prendre l'exemple des autoroutes, les autoroutes sont devenues quelque chose de très rentable pour les entreprises.
Tout à fait. Ouais.
Voilà. Et sur le long terme, c'est une source de revenus en moins pour l'État. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en fait, cette démarche enrichit un capitalisme
privé, ouais, tout à
privé
fait,
ouais. Au détriment des recettes de l'État. Et donc, ce qui est le plus démoralisant, si vous voulez, dans ce système, c'est qu'en définitive, je vais prendre par exemple là l'exemple du programme de Macron. Macron déboule en faisant un programme de baisse d'impôts. Donc, baisse d'impôts très important aux entreprises, comme on l'a vu, au l'ISF, mais aussi, par exemple, la suppression de 80% de la taxe d'habitation, un truc qui est sûrement apprécié par les gens. Mais non,
sur
même
5
temps,
ans, sur 5 ans,
qui doit être mis en, oui, et qui doit commencer l'année prochaine. Mais dans le même temps, il parle aussi déjà de couper dans les dépenses. Mais il est donc sur des prévisions de croissance.
C'est bon.
Mais on l'a vu en ce moment que la croissance c'est quand même pas génial. C'est une croissance lente. Donc par exemple, les prévisions de croissance sont moins bonnes que celles espérées. Et les résultats sur l'emploi sont moins bons que celles espérées.
Il tapait sur 3%, il tombait à 2.
Non, pas 3%. Non. Il était tapé sur un 9.
Un 9, pardon.
2,3, pardon. Et 2, là, 3, pour 2,3% du PIB, et on est à un 8 ou un 9. Voilà. Non, pardon. Il devait réduire. Il a l'objectif de réduire le déficit du PIB. Le déficit public à 2,3% du PIB. Il tablait sur une croissance de 1,9 et les 2,8. Alors, c'est inférieur, mais en termes de rentrée fiscale, ça pèse.
Oui,
et donc, du coup, les coupes budgétaires seront plus importantes. Et on peut dire, sans exagérer, que c'est comme ça depuis 20 ans. Voilà. Donc, effectivement, on comprend la logique qui consiste à comprimer à chaque fois les droits des retraités, les droits des chômeurs, les droits sociaux au profit... Enfin, de quelque chose qui, pour le moment, ne crée pas d'emploi.
Justement, alors, le souci, tu as bien raison, mais le souci, c'est quand même que la France est endettée, donc il faut bien trouver des solutions pour.
Oui, mais là, on a un exemple typique,
oui,
la création de la dette. Et justement, ça nous mène à l'autre sujet qui est important. Donc, la crise à 10 ans,
la crise financière à 10 ans, tout à fait.
Et donc, la crise à 10 ans a fait exploser la dette.
Mais est-ce qu'elle
elle avait déjà explosé en 95, et donc effectivement, on peut se demander si la dette est légitime. Oui. Alors du coup, c'est le thème des rencontres des comités de réduction, en fait, d'annulation des dettes, à la fois d'annulation des dettes du tiers monde, mais bon, tout simplement d'annulation des dettes tout court, puisque 10 ans, et c'est en Belgique, puisqu'effectivement, on estime finalement qu'aujourd'hui, et ATTAC estime, un certain nombre de gens, qu'il y a effectivement une dette illégitime, que la dette est devenue un objet d'asservissement, la dette publique. Alors il faut rappeler, pour expliquer, la dette à 10 ans. Et on a vu Monsieur Nicolas Sarkozy, 10 ans après, parler du moment où il était président. Donc Monsieur Sarkozy qui n'est plus responsable politique en 2017, et donc qui parle... De ses responsabilités. Alors c'était très intéressant d'entendre un monsieur Sarkozy, qui donc n'est plus président, vous dire moi mon analyse c'est que c'était une crise financière, qui était une crise provoquée par la dette privée, et qui donc fallait réagir à ces dettes. Il fallait réagir par rapport à cette spéculation, en fait, hein, mettre en terme à la spéculation, et dire qu'en face de lui il a quelqu'un qui s'appelle monsieur Trichet,
oui,
qui lui estime que c'est une crise de la dette publique.
Directeur de la Banque de France à l'époque, non, je crois.
Directeur de la BCE.
De la BCE, oui, c'est Banque de France avant. Oui.
Alors, du coup, le débat devient intéressant parce qu'en fait, on sait que c'est une dette privée qui a provoqué une crise de la dette publique parce que les États sont venus à la rescousse des banques.
Bien sûr.
Bon, et puis qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont enclenchés à ce moment-là. Alors, c'est pour dire qu'en fait, le mécanisme de la dette favorise la spéculation privée via les titres d'obligation qui sont émis par les États et qui sont, en principe, des titres sur un marché dans lequel on peut jouer. Donc, certains même diraient que la dette sur les, la dette a remplacé la spéculation sur la monnaie. Si la spéculation sur l'euro est impossible, la spéculation sur les dettes des États est possible, en fait. Et du coup, Monsieur Sarkozy de dire qu'en définitive, s'il a insisté pour nommer Mario Draghi, c'est quand, qui est pourtant de Goldman Sachs, c'est que il espérait bien que Monsieur Draghi fasse ce que fait une banque centrale, c'est-à-dire il rachète les titres de dette. La BCE est, mettons un rachat illimité des titres de dette des États via les banques, hein. Donc, cela étant dit, sur les titres de dette, elle met fin à la spéculation. Et donc, pour dire que, en définitive, les allègements d'impôts consentis régulièrement aux possédants provoquent en fait un asservissement lent, mais inévitable, des États qui s'endettent régulièrement. Et puis, à un moment, une crise financière aussi.
Bien sûr.
Voilà. Donc tout ça est lié. Et donc, à un moment donné, l'audit de la dette s'impose, savoir si on peut renier des dettes ou certaines dettes.
Très bien. Merci, Ludo. Bon, je te propose d'écouter Thomas Contreau d'Attaque France, qui nous parle justement des dettes illégitimes.
Dans tous les pays européens, on tient le même discours. Ce qu'on explique aux gens, c'est que les États et les populations ont trop dépensé d'argent, il y a eu trop de dépenses publiques, les dettes ont explosé, et maintenant, il faut rembourser, et donc il faut se serrer la ceinture. Or, ce que montrent les analyses, les audits citoyens de la dette publique, qui sont faits un peu partout en Europe, c'est que ça n'est pas vrai. La cause principale de la dette publique, ça n'est pas l'augmentation des dépenses, c'est la réduction des recettes publiques, la réduction des impôts qui a été consentie pour les plus riches, hein, avec l'idée fausse que ça allait leur permettre d'investir davantage et de créer des emplois. Et puis une autre cause majeure de la dette publique, c'est la récession provoquée par la crise financière, par la spéculation financière. Ensuite, aujourd'hui, les gens nous disent on peut pas, il faut payer la dette publique parce que si on dit qu'on va arrêter de la payer, les taux d'intérêt vont augmenter, les capitalistes vont s'affoler, ils vont plus vouloir prêter aux États et on sera obligé de faire encore plus d'austérité pour réduire les déficits. Et là encore, c'est un argument mensonger, puisqu'en effet, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas, mais ils sont très bas justement parce que les gouvernements pratiquent partout des politiques d'austérité qui répondent aux exigences des investisseurs, aux exigences des grands capitalistes financiers, et qui amènent les pays à une augmentation du chômage, de la misère. Et donc, il faut remettre en cause ces politiques, et il faut accepter une confrontation avec les intérêts financiers qui peut se traduire dans un premier temps par une augmentation des taux d'intérêt. Peut-être les investisseurs capitalistes voudront exiger des taux d'intérêt plus importants sur la dette des pays européens, mais ce sera justement alors qu'on pourra poser la restructuration, l'annulation d'une partie de la dette, parce que ça apparaîtra clairement comme insoutenable et contraire aux intérêts des populations. Pour alléger le fardeau de la dette publique, est-ce qu'il vaut mieux annuler une partie de cette dette ou bien la rembourser grâce à un prélèvement exceptionnel sur les grandes fortunes? Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'il faut faire les deux. En fait, il faut à la fois annuler une partie de la dette, ce qu'on pourrait appeler la dette illégitime. En réalité, c'est surtout la partie de la dette qui est détenue par des gros fonds d'investissement, des fonds spéculatifs et des fortunes privées très importantes. Cette partie de la dette qui est détenu par ses intérêts de grands investisseurs, de grands capitalistes, on peut l'annuler tout simplement parce que ces gens n'ont pas besoin de cet argent. Une autre partie de la dette publique, sans doute plus importante, est détenue par des épargnants, des petits et moyens épargnants, ou par des fonds de pension qui doivent verser ensuite des retraites à des salariés américains, néerlandais ou britanniques. Et là, on ne peut pas simplement les exproprier comme on pourrait le faire avec des gros investisseurs, des gros capitalistes. Il faut rembourser. Et pour rembourser cette partie de la dette publique, nous préconisons une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes. Et on a fait des calculs. Il y a eu des chiffres qui ont été cités pour la France, dans le cas français. En taxant de 20% les grandes fortunes, c'est-à-dire les fortunes du 1% le plus riche, hein, le 1% de la population le plus riche, on pourrait dégager de quoi rembourser la totalité de la dette publique française. Et donc faire des économies considérables, évidemment, sur les remboursements d'intérêts et pouvoir dégager de l'argent pour financer des investissements publics, pour, par exemple, la transition écologique, les économies d'énergie. Et donc là, on a vraiment une mesure extrêmement importante. Outre l'annulation d'une partie de la dette, cette taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes permettrait de soulager considérablement les budgets publics, de relancer une création d'emplois et aussi de redistribuer les richesses de façon importante. Et donc, c'est vraiment une mesure très forte à mettre en avant par nos organisations.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. À chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
C'était une magnifique chanson, c'était Utile de Julien Clerc, bien sûr chanté par lui-même. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi ce soir est de Agir ensemble contre le chômage, AC, 19-20. Je suis avec Ludo au micro. Bonjour Ludo, à nouveau.
Bonjour.
Voilà. Donc on reprend cette émission en parlant un petit peu d'Europe, puisque nous sommes maintenant, on va pas rester sur les problèmes franco-français qui sont importants, hein, bien sûr. Mais en Europe, il y a quand même des pays qui s'en sortent un petit peu, apparemment. Et c'est le cas du Portugal.
Absolument. Et donc c'est la seule bonne nouvelle de cette triste année et de cette triste émission, puisque le Portugal va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux en faisant quoi ? En désobéissant à la Commission européenne. Voilà. Puisqu'effectivement, comme vous le savez, les pays du Sud ont été frappés par une politique d'austérité dévastatrice, on peut dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire de compression des droits sociaux, à la retraite, au chômage, au salaire minimum et aux fonctionnaires, qui ont plongé les pays concernés, donc c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, bien sûr, mais aussi le Portugal et l'Espagne et l'Irlande, dans une spirale récessionniste avec des dégâts considérables. Et donc au Portugal, il y a d'abord eu un gouvernement de droite qui a appliqué ces mesures et qui a d'ailleurs, je crois, demandé des prêts au FMI et évidemment qui n'ont pas apporté les résultats escomptés, puisque le chômage a grimpé à 16%, enfin qui ont eu les mêmes résultats en fait qu'en Espagne par exemple, pays voisin. Et puis a succédé à un homme politique de gauche qui a décidé de faire autrement. Puisque, disait-il dans son discours, la politique d'austérité suivie ces dernières années a eu pour conséquence une augmentation sans précédent du chômage, avec des effets sociaux dévastateurs sur les jeunes et les citoyens, les moins qualifiés, ainsi que les familles et les milliers de Portugais au chômage. Elle était aussi associée à une dévalorisation de la dignité du travail et des droits des travailleurs. Et donc, il a donc décidé, ce brave monsieur, d'augmenter le salaire minimum, d'augmenter la retraite, d'augmenter les minima sociaux, c'est-à-dire une politique diamétralement opposée à ce qu'on fait ici en France. Avec pour résultat une baisse du chômage qui était à 16% en 2016 et qui a 16% en 2016 et qui est aujourd'hui passé à 11% et qui nous qu'est-ce que je raconte moi 16% en 2013 pardon et qui est attendu à peu près à 8,8% cette année, c'est-à-dire une chute
de 50% presque.
Voilà. Oui. Alors pourquoi cette baisse du chômage ? Il y a un effet d'abord, c'est le tourisme, c'est-à-dire que le Portugal reste un pays qui est attractif d'un point de vue touristique et qui est d'autant plus attractif que les problèmes dans les pays du sud de la Méditerranée, en Tunisie, ont provoqué un reflux du tourisme vers le Portugal, et puis parce que certaines destinations touristiques sont devenues assez chères. Mais pas que. Il y a aussi un effet de relocalisation des entreprises qui étaient parties effectivement à l'étranger et qui sont revenues sur le territoire pour profiter finalement de salaires qui étaient quand même pas si élevés que ça. Et donc Donc il y a réellement quand même des causes économiques derrière. Mais ce qu'il faut retenir, et ce qui me paraît important, moi, c'est qu'en définitive, le Portugal est capable de regonfler, enfin d'améliorer donc ses résultats économiques en regonflant sa demande intérieure et sa production intérieure. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on demande au pays d'aller exporter plus et donc d'aller conquérir des parts de marché à l'extérieur, donc depuis la crise notamment,
oui, depuis 2008,
en réduisant la demande intérieure via toute une politique de baisse de la demande et donc de baisse des droits sociaux. Et on a un pays qui fait l'exact opposé et qui finalement s'en sort pas plus mal parce que en définitive, effectivement, que les salaires trop bas depuis 10, 20 ou 30 ans produisent une crise de la demande intérieure. Et c'est le diagnostic par exemple de Michel Husson qui dit qu'au fond, c'est bien la baisse des salaires au niveau européen qui a conduit à l'espèce de marasme dans lequel on est.
D'accord.
Donc le Portugal, si les choses se confirment, est quand même en train de faire la démonstration qu'il est possible d'inverser la tendance, d'augmenter la demande intérieure et de provoquer par cela un cercle un peu vertueux en quelque sorte, qui ramène des entreprises dans les pays dans le pays d'origine.
Oui, mais en n'obéissant pas à l'Europe, enfin à la Commission européenne, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être pas d'être puni, mais d'être mis un petit peu à l'écart?
Alors tout à fait. La Commission européenne a d'abord engagé une procédure en 2000, une procédure de déficit excessif. Elle était effectivement, puisque le déficit public, c'est quand même réduit de façon significative.
Oui. Hein,
il était 4,4%, il a tendu à 2,5.
Pas mal.
Voilà. Et donc, il était en déficit excessif, mais au même titre que la France. Et donc, la procédure a été engagée et elle a été abandonnée. Mais les bons résultats déplaisaient, en fait, économiques déplaisaient aux idéologues de Bruxelles, puisqu'en fait, ils contredisaient un peu toute leur doxa. Et donc, dans les recommandations qu'il y a eu il y a peut-être un an, on a vu les experts de la Banque de France, je crois que c'est la Banque de France, ou de la Commission de Bruxelles, qui a quand même conseillé aux Portugais de se méfier des augmentations à long terme, des effets à long terme de l'augmentation du salaire minimum.
D'accord.
À quoi nous ne pouvons nous empêcher d'être un peu populistes et de dire de nous méfier des avantages des fonctionnaires de la Commission européenne et de nous méfier de leurs émoluments généreux qui leur permettent de recommander ce type de politique, c'est-à-dire baisser le salaire minimum.
Bah, ça veut dire que si jamais demain ça fait boule de neige, peut-être qu'on arrivera enfin à une Europe sociale et solidaire, faut l'espérer.
Oui, enfin, si on change de dirigeant de la Commission européenne, oui.
On va s'y atteler, il n'y a pas de souci. Merci Ludo pour ces explications tout à fait intéressantes. Merci à Claude pour la technique. Cette émission, bien sûr, se termine.
Bah, oui,
elle se termine. Une petite chanson pour terminer. Et puis, on a fait le tour de la question pour ce soir. Merci messieurs dames de l'avoir suivi. Voilà, j'ai fait un petit couac en entrant dans cette émission. Hein. C'est le stress des militants, on va dire.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée. Voilà, donc cette émission se termine. Je remercie messieurs dames de l'avoir suivi. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Mon père était prince de la Chine. Je suis née au bord d'un chemin qu'avait choisi notre Verdine pour détaler jusqu'au matin. Je devins vite une gitane, je faisais le jeu de tarot aux amoureux sous les platanes et aux terrasses des bistrots. Ma jeunesse était souveraine dans les jeux des fêtes foraines.